Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Bertille Bourdon, Barthélémy Gaillard et Gwendoline Troiano, sans oublier Nora Litoussi, réalisée par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Comme chaque vendredi, notre séquence Retour de terrain dédiée au reportage avec aujourd'hui Chris Ubi qui revient du Kurdistan syrien et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
À nos côtés, comme chaque vendredi pour animer la discussion, nous parlerons ce matin d'une des figures majeures de l'exécutif européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dont le mandat s'achève d'ici quelques mois mais qui compte bien rester en poste. Elle a en tout cas obtenu l'aval de son parti, le PPE, qui a de grandes chances de remporter les élections européennes du 9 juin. Quel bilan von der Leyen laisse-t-elle après 5 années marquées par des crises majeures comme le Covid et la guerre en Ukraine? Quel défi se prépare-t-elle à relever si elle est reconduite? Nous en discuterons avec nos invités, Marion Gaillard, historienne, enseignante à Sciences Po, spécialiste des relations franco-allemandes et des questions européennes, et Pascale Joannin, politologue, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place à notre retour de terrain. Bonjour Chris Ubi.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes journaliste indépendant. Vous vous êtes rendu il y a quelques mois près de Kamishli, dans le nord-ouest de la Syrie, une région tenue par les forces kurdes. Ici, dans un lieu tenu secret, se trouve Orkesh, un centre de déradicalisation pour adolescents. Une centaine de garçons âgés entre 12 et 21 ans s'y trouvent enfermés. Tous sont des enfants des djihadistes de l'État islamique. Parmi eux, 4 Français emmenés de force en Syrie par leurs parents. Désormais orphelins ou éloignés de force de leur famille, ils suivent un programme censé leur permettre de se défaire de l'idéologie de Daesh. Mais les moyens manquent et les perspectives de sortie sont très incertaines pour ces jeunes, souvent perçus comme des menaces. Des vies sur pause, pour reprendre l'expression de l'un d'entre eux, et un centre sous pression. C'est ce que vous racontez dans votre reportage pour le Figaro Magazine, Les Enfants du Djihad, qui paraît aujourd'hui, et surtout dans votre documentaire Fils de djihadiste, l'impossible retour, co-réalisé avec Guillaume Lautelier, diffusé hier dans Envoyé spécial et visionnable encore sur France 2. À quoi ressemble, Chris Ubi, le centre de Orkesh? Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux en quelques mots?
Oui, Orkesh, c'est une ancienne ferme qui a été retapée par les Kurdes il y a quelques mois. Orkesh a ouvert il y a 1 an et demi. Hein. Et c'est, vu les moyens du bord, c'est un lieu extrêmement déprimant. C'est un lieu gris de 2 étages dans lequel rien ne fonctionne encore pour l'instant. C'est une ancienne ferme, donc évidemment, voilà, il n'y a rien. Alors, on va dire les choses comme ça. Donc c'est très pauvre, il n'y a pas de fenêtres, il y a des grilles et il y a une petite cuisine sur le côté. On résume ça comme ça.
Un bâtiment, des salles communes, des chambres, une cour pour les jeunes, un périmètre assez restreint.
Des chambres, effectivement, où il y a 4 à 5 pensionnaires, un terrain de foot devant le lieu principal et un petit couloir dans lequel les gamins peuvent circuler. Mais c'est vraiment tout.
Et c'est un lieu fermé, les enfants ne peuvent pas en sortir. Orkesh, c'est le deuxième lieu de ce type qui est ouvert par les Kurdes. Un premier l'avait été en 2018 et donc c'est un lieu qui se veut vraiment un centre de déradicalisation. Alors qu'est-ce que les Kurdes entendent par là concrètement? Qu'est-ce qui est mis en place pour ces adolescents qui ont un passé très particulier puisque la plupart d'entre eux sont tous des enfants de djihadistes. Certains ont même été des enfants soldats.
Effectivement, alors il y a dans Orkesh, il y a environ 120 adolescents de 12 à 18 ans, jusqu'à 20 ans aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas les remettre en prison. Donc, effectivement, les Kurdes ont décidé il y a quelques années d'ouvrir des centres de déradicalisation parce que voilà, il y en avait de plus en plus des enfants, donc c'est une question très importante sur leur territoire. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux types de groupes d'enfants. Il y a ceux qui ont été complètement enlevés, kidnappés par leurs parents et qui ont rien fait sur le terrain, qui ont juste été posés dans les immeubles de Raqqa et qui ont attendu qu'il se passe quelque chose. Et d'autres ont été entraînés par l'État islamique durement à partir à peu près de 14-15 ans. Globalement, beaucoup de locaux, des Syriens, des Irakiens, des Turcs, mais petit à petit, les Occidentaux ont également été entraînés. Donc évidemment, eux ont été extrêmement radicalisés sur plusieurs mois. Voilà, donc le programme de déradicalisation proposé par les Kurdes est assez simple. Dans un premier temps, il faut séparer les enfants de l'influence directe parentale, hein, parce qu'il y en a encore beaucoup, même s'il y en a beaucoup qui sont orphelins, il y en a encore beaucoup qui ont leur mère dans les camps. Donc la première déradicalisation, c'est de couper l'influence, donc de les enlever à leurs parents. Donc ça se discute évidemment, mais évidemment, vu les cas dans les camps, qui sont très extrémistes, c'est évident que voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mixer les enfants, puisqu'il y a des modérés et des extrémistes, les mettre dans la même chambre et voir ce qui se passe. C'est une expérimentation à long terme. On voit sur le long terme d'ailleurs que ça fonctionne plutôt pas mal. Mais c'est la deuxième phase de déradicalisation, c'est-à-dire qu'on les mélange. Parce que là-dedans, il y a toutes les nationalités, il y en a à peu près 34 à Orkesh. Il y a aussi toutes les classes populaires, parce que entre, il y a des Américains de Brooklyn et un Syrien du Bled, évidemment, qui a un problème de classe. Il y a une différence de classe. Et puis, évidemment, toutes les strates de radicalisation. Donc, le fait de mélanger les enfants, ça fonctionne. Et les modérés l'emportent. On s'en est rendu compte sur plusieurs années. Voilà. Et puis, dernière partie, les Kurdes s'en occupent. C'est-à-dire que il y a d'abord une incarnation, parce que beaucoup des moums ont été désincarnés par leurs parents, parce que beaucoup étaient condamnés à devenir, pour certains, des kamikazes, des poseurs de bombes, des tueurs, des gamins qui avaient parfois moins de 10 ans, donc évidemment qui n'étaient pas forcément incarnés. L'incarnation, c'est la première chose, le fait de discuter avec eux, de les rendre individus. Et les Kurdes s'emploient à avoir des suivis psychologiques et évidemment quelques cours, c'est-à-dire des cours de mathématiques, des cours d'anglais, des cours d'arabe et autres cours de sport, mais qui sont là pour la cohésion. Voilà, donc c'est les moyens du bord, mais ça fonctionne.
Ici, il faut que tu dors comme eux, ils veulent. Tu te réveilles comme eux, ils veulent. Tu pars manger comme eux, ils veulent. Il reste quand même un petit truc, c'est que tu pars aux toilettes quand eux, ils veulent aussi.
Tu t'assois bien, il fait froid, tu vois. Il n'y a pas de chaise. Tu t'assois sur elle. Il n'y a rien du tout, ouais. Oh, il fait froid. Aussi, tu mets ton pain par terre et il va devenir sale. Oh, faut que je reste tout le temps dans ta main.
Ça, c'est le témoignage de Hamza, qui est l'un des Français qui se trouve dans le centre. Il a une vingtaine d'années. Il vous décrit des conditions de vie qui sont assez précaires, c'est-à-dire les enfants sont nourris, logés, mais tout ça est quand même sur le fil. Dans la salle de petit déjeuner, on les voit accroupis par terre, sur un sol assez sale. Le menu, c'est toujours le même, un petit peu de pain, de la ménage, parfois du beurre. Il y a aussi très peu de liberté, très peu d'autonomie. Leur journée, elle ressemble à quoi finalement dans ce centre ?
Hamza est le résumé vraiment chaotique de cette histoire. Hamza est arrivé il y a fort longtemps, il est passé des camps à la prison, à la rééducation, enfin il est passé dans les deux centres, et je le connais depuis 2019, enfin, je l'ai suivi. Et effectivement, il me raconte, comme on peut le voir dans les différents reportages, que bah, c'est la déprime, quoi. Nous, on parle plutôt de dépression, parce qu'ils ont vécu à peu près 10 ans de guerre. Leurs parents sont morts. Hamza, c'est sa mère qui l'a emmené. Sa mère est morte après les bombardements à Barouz, de la coalition. Et il le savait pas tout de suite. Les Kurdes lui ont appris un an après pour éviter de le fragiliser encore plus. Il a été touché directement, blessé, paralysé, dans le coma. Enfin bref, Hamza a tout vécu. C'est l'exemple. C'est un exemple parmi des centaines, hein. Ils sont tous comme ça. Et Hamza, aujourd'hui, se retrouve effectivement dans un centre de déradicalisation, Orkesh, qui a très peu de moyens, et Hamza, voilà, a des journées où il se lève le matin très tôt à l'aube, il fait sa prière, les Kurdes l'emmènent petit déjeuner, ça ressemble effectivement à des images de prison puisqu'ils sont tous en colonne avant d'aller prendre leur petit déj. Ils nous l'ont tous dit, c'est affreux, parce que ça se répète, c'est dégueulasse, enfin voilà, c'est les termes des adolescents. Il y a quelques cours, ils accèdent au terrain de foot une fois de temps en temps, c'est quand même leur grande passion, le foot, là-bas, mais ils ont que ça. Et le reste du temps, ils attendent qu'il se passe quelque chose dans l'immeuble. Et c'est un terme extrêmement compliqué, parce que la dépression peut les faire craquer. C'est dangereux pour eux, mais c'est aussi dangereux de manière générale, parce qu'on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver. La déradicalisation, il faut qu'elle avance. Si elle n'avance pas, c'est-à-dire si les enfants ne reviennent pas, ça peut être compliqué pour tout le monde.
Vous le disiez tout à l'heure, Hamza est un des exemples de ces enfants polytraumatisés qui ont vécu les choses les plus terribles et qui avancent malgré tout. Aujourd'hui, quel regard ce jeune homme est capable de porter sur son propre passé, sur les actes de ses parents et sur ses propres actes ?
C'est vraiment l'exemple de la déradicalisation en travail, Hamza. Pour moi, c'est une réussite dans le sens où je l'ai connu il y a 5 ans. C'était encore un jeune ado. Déjà, il avait du mal à parler. Il parle français, il est de Toulouse, Hamza. Mais on ne comprenait pas trop ce qu'il racontait parce qu'il avait tellement de traumatismes que c'était difficile. Même en arabe, apparemment, c'était compliqué de le comprendre. Bon. Et les Kurdes, les gardiens kurdes me disaient « Attention, il est violent, il a des réactions inappropriées, imprévues, donc quand tu l'approches, tu fais attention. » Bon, on l'avait approché, ça se passait plutôt bien, mais on sentait qu'il avait des réactions compliquées. Sur 5 ans, Hamza, aujourd'hui, et on le voit dans le documentaire, est quelqu'un qui se normalise. C'est-à-dire que moi, j'ai une discussion avec lui pendant les semaines qu'on a passées là-bas, longue, profonde. Il a réussi, comme tous les autres, il n'y a pas qu'Hamza, à avoir un recul, c'est ça le plus important, sur ce qui s'est passé. Hamza a combattu. Hamza sait qu'il a fait des conneries, il le dit, il en a conscience. Il sait que ses parents l'ont fondamentalisé, enfin sa mère l'a fondamentalisé à un moment donné de sa vie. Maintenant, il le sait, parce que les Kurdes lui ont expliqué. Bien évidemment, l'attente à Orkesh et dans les prisons l'ont fait réfléchir, évidemment. Et aujourd'hui, on peut parler clairement de ce qui s'est passé.
Alors, il y a le cas de Hamza, il y en a beaucoup d'autres. Comment est-ce qu'on dépasse les cas individuels pour essayer de mesurer les avancées de cette déradicalisation ? Aujourd'hui, les Kurdes, et vous l'avez décrit, ils ont très peu de moyens dans ces centres. On sent la volonté, mais il y a aussi une réalité très matérielle. Assez peu de, les professeurs qui viennent donner des cours sont issus d'ONG qui viennent faire ça bénévolement. Il y a des financements, mais tout ça est très fragile, très précaire. On manque de moyens. Donc, comment est-ce que les Kurdes mesurent les résultats de cette déradicalisation quand ils s'adressent au pays d'où viennent ces jeunes en leur disant « Vous pouvez récupérer vos ressortissants ils ont changé. Quels sont leurs critères ? Comment peuvent être-ils sûrs que ces gamins ont changé ?
Les ONG qui travaillent là-bas sont des ONG kurdes. Je crois que c'est important de le préciser parce qu'il n'y a pas d'ONG qui s'occupe de ces gamins pour l'instant. Donc les Kurdes sont responsables de A à Z des résultats et de l'analyse des résultats, bien évidemment. On ne sait pas exactement. Il y a évidemment une première chose, c'est de voir comment se comportent au quotidien les enfants. Donc les gardiens font des rapports quotidiens sur ce qu'ils voient, sur chaque individu, et font passer ça aux autorités kurdes. Voilà, donc évidemment qu'il y a un travail sur le long terme, parce que le premier centre date de 2018, donc vous vous rendez bien compte que ça fait quand même 6 ans que ça dure pour certains, comme Hamza. Donc c'est aussi simple que ça, c'est on voit la communication, on voit le comportement notamment avec les autres pensionnaires et on voit si les gamins ont le recul nécessaire pour que des fiches soient envoyées aux pays initiaux.
Ce dossier des enfants de djihadistes concerne tout le monde. Nous en sommes tous responsables. Nous, les Kurdes, les pays occidentaux et aussi les pays du Moyen-Orient. Nous souhaiterions donc que ces pays s'engagent à nos côtés, notamment d'un point de vue financier. Ça nous permettrait d'avoir suffisamment de moyens pour réhabiliter ces jeunes. Nous sommes inquiets, car les djihadistes savent pertinemment que nous travaillons à la rééducation de leurs enfants. Et ça, ça met Daesh très en colère. C'est pourquoi ces combattants s'efforcent jour et nuit de planifier des attaques contre notre centre et visent les gens qui travaillent avec nous et tous ceux qui travaillent sur le programme de réhabilitation.
Voilà le témoignage de Khaled Al-Ramo, qui est donc le directeur du centre de Horkesh dans le nord-ouest de la Syrie. De la Syrie. Il évoque les attaques dont font l'objet le centre. Aujourd'hui, récupérer ces jeunes, c'est une priorité des islamistes qui ne sont pas en prison, qui sont encore actifs en Irak et en Syrie.
Oui, y a évidemment une volonté de Daesh de récupérer tout le monde en Syrie, en Irak. Donc, évidemment que c'est une bombe à retardement, c'est pas un secret, on le sait tous. Il y a environ 50 000 djihadistes, notamment, retenus en Syrie, dans des camps, dans des prisons, et donc, effectivement, dans des centres de déradicalisation. Donc, tous ces endroits sont visés par l'État islamique régulièrement. Il y a eu des attaques aux prisons d'Assaké, qui ont quand même fait des attaques qui ont fait des centaines de morts il y a 3 ans maintenant. Et les Kurdes redoutent effectivement que les centres soient ciblés. C'est les enfants de l'État islamique, certains ont combattu. Donc évidemment que ce sont des proies pour l'État islamique, il n'y a aucun doute. Si je peux aller plus loin, l'histoire de Gaza, depuis quelques mois, risque effectivement de poser un problème régional. Et notamment, si Joe Biden continue à avoir des problématiques avec l'Iran, et c'est un terme de campagne compliqué pour lui. Il y avait déjà l'Ukraine, mais alors si en plus il se rajoute la campagne iranienne, il y a des chances qu'il perde son élection. Ce qui veut dire quoi? Pardon, hein, c'est très important parce que c'est la bombe à retardement pourrait éclater en fin d'année. Si Trump l'emporte, Trump va sans doute ramener ses troupes. Il y a environ 1 millier de soldats américains encore en Syrie postés, il y a quelques bases. Mais Trump, voilà, veut pas s'embarrasser, risque de ramener ses troupes. Or, s'il fait ça, il va laisser les Kurdes face aux Turcs. Et les Turcs vont se faire une joie de libérer les djihadistes. 50 000 djihadistes dans la nature, c'est compliqué.
Aujourd'hui, on parlait des financements tout à l'heure et on a entendu l'inquiétude du directeur du centre sur les financements. Que sait-on de qui finance ces centres? Et puisqu'on parlait des Américains, que sait-on de leur engagement sur ces centres?
Alors, c'est tenu complètement... c'est opaque. Les Kurdes m'ont dit un peu off que les Américains, évidemment, s'employaient à financer les deux centres. J'ai vu les Américains un jour, parce que moi, je tourne aussi dans l'autre centre, un documentaire. Un jour, les Kurdes nous ont dit « Mettez-vous dans le bureau, attendez, il y a une ONG qui passe. » Bon, ok. C'était un peu curieux. Et l'ONG, en fait, il ressemblait quand même à des soldats américains qui faisaient le tour du premier centre. Et donc on est allé tout de suite après la visite voir les enfants qui nous ont dit « Mais c'est la CIA, on est tous au courant. » Donc renseignement pris, évidemment que les Américains gèrent les centres. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire, les Américains se sont occupés de la dénazification de beaucoup d'enfants de soldats en Afrique. Donc ils font la même chose en Syrie. C'est une espèce de laboratoire, comme disent certains gamins, c'est un aquarium. C'est une zone test mondiale parce que c'est un cas mondial unique. Nous avons une trentaine de nationalités dans les centres, avec des classes différentes. Et donc c'est la première fois que ce genre de cas se passe. Les Américains sont évidemment sur le coup, donc ils financent un petit peu aussi. Et on se pose des questions sur les gouvernements européens, et notamment sur Horkesh. Parce qu'il y a des Français, et tous les Français sont à Horkesh. Donc c'est des questions, pour l'instant, sur ce qui se passe à Horkesh, mais on n'a pas de réponse.
Tu te sens un peu déconnecté parfois de...
Du monde.
De l'actualité du monde, de ce qui se passe en temps réel.
Bah franchement, ouais, exactement, ouais. J'ai l'impression que j'étais dans un carton, c'est fermé, tu vois.
Ça rend triste.
Exactement. En fait, ça rend triste, vraiment. Ça rend triste. Parce que tu te dis, ouais, en fait, t'es en dehors du monde, quoi. Et des fois, je me dis, tu sais, j'ai l'impression que je suis en mode pause, tu sais. Et j'attends que quelqu'un vienne et mes lectures, quoi, pour recommencer ma vie et pouvoir avancer, tu vois.
De refaire démarrer.
Je sais qu'il y aura un jour qui va arriver, mais j'espère que ça va se passer vite, parce qu'en fait, il y a des moments de ma vie qui passent. Et en fait, les années, je pourrais pas retrouver en arrière, tu vois. Ces années, en fait, je peux pas retourner à l'inverse, c'est soit maintenant, soit jamais.
Dernier témoignage, celui de Adem que vous recueillez alors qu'il est en train de regarder un match de foot. C'est l'une des rares distractions dans le centre de Horkesh. Et précisons que ce sont des matchs enregistrés. Il n'y a rien qui ne passe à la télé qui soit du direct. Ils sont véritablement coupés du monde. Adem, il faut le préciser, il s'appelle Adem Klein. C'est le fils de Fabien Klein, le terroriste français qui avait revendiqué les attentats du 13 novembre depuis Raqqa. Aujourd'hui, Adem qui... apparemment n'a pas participé, lui, au combat et a été emmené de force par ses parents, espère un rapatriement en France. Quelle est la probabilité qu'il l'obtienne et quelle conscience a-t-il de ce qu'il représente pour les Français?
Alors, la probabilité est inconnue pour l'instant. Il y a environ 200 ressortissants français qui sont rentrés depuis quelques années, dont beaucoup d'enfants, évidemment, qui viennent des camps. Mais le président Emmanuel Macron a annoncé il y a un an et demi, l'été dernier, que c'était fini les rapatriements. Bon, donc on ne sait pas du tout donc ce que vont devenir ces gamins, notamment les quatre que l'on voit, dont Adem Klein, qui effectivement porte le nom compliqué de sa famille. Ce sont des sujets à la fois sociaux et politiques. On comprend très bien, par ailleurs, que la France pourrait se méfier. Bon, mais voilà, quand on interroge effectivement les quatre concernés, dont Adem, il sait très bien qu'il y a quelque chose qui lui colle à la peau, qui est son nom, qui a évidemment derrière lui une histoire invraisemblable dont il n'est pas responsable. Et il se doute bien que les Français et la France se méfient de lui. On l'a peut-être pas mis dans le reportage, mais il y en a beaucoup qui me disent « on nous voit comme des tueurs, on nous voit comme des animaux, on nous voit comme des sauvages, alors que nous, on n'a rien fait ». Donc ils ont conscience effectivement que les Français pourraient s'imaginer le pire de leur cas. C'est assez simple. Ils sont tous désespérés. Donc ils espèrent effectivement que la France s'intéresse à leur cas, mais on ne sait pas du tout où ça va aller.
Eh bien, on essaiera de continuer à suivre ce sujet. Merci beaucoup, Chris Ubi. Les enfants du djihad, ça paraît aujourd'hui dans le Figaro magazine. Et votre documentaire « Fils de djihadiste, l'impossible retour » co-réalisé avec Guillaume Lautelier a été diffusé hier dans Envoyé spécial sur France 2. On mettra évidemment les liens sur la page de Culture Monde. Merci encore d'être venu.
Merci à vous.
Time now. Tick tock, I rock. But then I look at the clock. Knock, knock, who's there? Well, I don't dare. Open the door. Time. There was nothing but time then. Click clack riding down the tracks. Never worried about coming back. Any place looked good to me. Why not stop and see? What's there?
Le groupe californien Hills avec ce titre Time sorti en 2003 et c'est avec ces notes qu'on quitte le Kurdistan syrien direction l'Europe.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
400 yes,
400 oui, 89 non.
And that means that is elected.
Et cela signifie qu'Ursula von der Leyen est élue haut la main.
Congratulations.
Félicitations.
So this is a defining moment.
Il s'agit donc d'un moment décisif.
The signal of Bucharest today is
le signal de Bucarest aujourd'hui est que le PPE défend une Europe forte et sûre, pacifique et prospère, démocratique et unie. Nous sommes pour l'UE, pour l'Ukraine et pour l'état de droit.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'exprimait début mars devant les membres du PPE, le Parti populaire européen, et qui a donc reçu le soutien de sa famille politique pour sa candidature à un second mandat. C'est en effet à l'issue des élections européennes du 9 juin que sera désigné le nouvel exécutif européen, et celui-ci devra refléter les équilibres politiques du Parlement. En bonne place pour l'emporter, Ursula von der Leyen devra toutefois obtenir le soutien des chefs d'État et c'est l'objectif de la campagne qu'elle vient de démarrer. Quel bilan peut-elle faire valoir après un mandat marqué par des crises sans précédent, pandémie mondiale, guerre en Ukraine? Quelles priorités affiche-t-elle pour les cinq années à venir et qui est vraiment Ursula von der Leyen et quel est son projet pour l'Europe? Eh bien, on commence avec vous, Marc Semo.
Merci Mélanie. Alors, en prenant ses fonctions il y a 5 ans à la tête de la Commission européenne, Ursula von der Leyen avait promis une présidence géopolitique. Servie par les événements, l'ex-ministre allemande de la Défense, a réussi à incarner le réel sursaut européen face à la pandémie de Covid ou face à l'agression russe en Ukraine. On se souviendra notamment de sa visite à Kiev sous les bombes peu après le début de la guerre ou de sa venue à Tel Aviv juste après les attaques du Hamas. Mais cette personnalisation extrême de sa fonction est aussi sa faiblesse. Ses commissaires sont frustrés par son manque de collégialité et ils l'accusent d'outrepasser souvent ses fonctions. Les États membres les plus proches des Palestiniens, dont l'Espagne, lui ont reproché son soutien initialement inconditionnel à Israël. Paris s'inquiète de son atlantisme appuyé. Chef de file du Parti populaire européen, la principale force du Parlement européen pour les élections du 9 juin, von der Leyen est explicitement candidate à sa reconduction. Ce n'est pas acquis, à droite notamment, dans son camp, beaucoup le reprochent d'avoir été trop verte, trop sociale et surtout trop francophile. Elle est en outre affaiblie par deux affaires maintenant. L'une, le Pipergate, pour avoir nommé à un haut poste l'eurodéputé bavarois Markus Pieper sans le respect strict des procédures. L'autre, le Pfizergate, sur les conditions directement négociées avec le patron du laboratoire homonyme sur le prix et le volume des vaccins. Et donc, à droite, déjà d'autres noms circulent pour présider la commission, à commencer par celui de l'ex-premier ministre italien Mario Draghi.
Merci beaucoup Marc Semo pour cette introduction et nous sommes en compagnie pour discuter de Marion Gaillard. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes historienne, enseignante à Sciences Po, spécialiste des relations franco-allemandes et des questions européennes, autrice notamment de l'Union européenne, institutions et politique, c'est paru à la documentation française, et en ligne avec nous Pascal Joannin. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes politologue, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Pour commencer, je voudrais peut-être qu'on fasse un petit retour en arrière. 2019, ça paraît une éternité. Ursula von der Leyen n'était pas la candidate, entre guillemets, naturelle, et en tout cas désignée par son parti, le PPE, à l'époque. Et elle avait obtenu une approbation du Parlement assez courte, 9 voix près, je crois. Est-ce que, peut-être on peut redire un mot de ces circonstances de l'époque, Marion Gaillard, et puis se poser la question si aujourd'hui, en 2024, c'est avec une légitimité politique désormais renforcée, et bien qu'elle se présente pour ce second mandat.
Alors oui, il faut rappeler effectivement qu'elle a été élue grâce à un contournement par les chefs d'État et de gouvernement du système qu'on appelle les Spitzenkandidaten, qui plaît pas trop en France parce que ça sonne un petit peu compliqué, qui est juste un système très simple qu'on connaît dans beaucoup de démocraties parlementaires, c'est-à-dire un système de tête de liste. Le Parlement européen avait mis en place ce système en 2014 pour contourner les petits arrangements entre ennemis ou entre amis, ça dépend, qui faisaient émerger souvent des présidents de la Commission européenne assez invisibles et sans charisme. Et ils en avaient un petit peu marre, puisque le dernier président de la Commission assez charismatique et qui portait une vraie vision de l'Europe, c'était Jacques Delors, auquel on pense. Et donc les deux suivants étaient assez invisibles. Donc le Parlement en a eu marre et a décidé de s'emparer du traité de Lisbonne qui lui donne le droit d'élire le président de la Commission européenne pour, en fait, installer ce système des têtes de liste. Ça a fonctionné en 2014 et puis en 2019, les chefs d'État et de gouvernement qui n'avaient pas tellement digéré le fait qu'on passe par-dessus leurs décisions ont décidé effectivement d'outrepasser ce système en sortant du chapeau Ursula von der Leyen. Ce qui n'a pas plu beaucoup et elle a été élue, comme vous le rappeliez, à une très courte majorité puisqu'elle a été élue avec 380 voix, il lui en fallait 374, donc 9 voix. Donc c'était très très juste et elle a réussi à être élue en partie grâce aux voix du mouvement 5 étoiles italien et du PiS polonais alors que elle n'avait pas fait le plein des voix au sein même de sa formation du PPE parce que beaucoup lui préféraient le candidat tête de liste qui avait été désigné qui était Manfred Weber et puis évidemment par une partie des sociaux-démocrates et des Verts qui n'avaient pas voté pour elle. Donc c'était déjà juste, ça peut être encore plus juste aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle fait campagne et qu'elle s'active, on en reparlera sans doute notamment auprès de Giorgia Meloni, mais ce qui risque de la fragiliser du côté gauche du coup.
Alors si ça risque d'être juste pour reprendre vos mots, ce sera peut-être pour d'autres raisons cette année en 2024. Pascal Joannin, votre regard à vous sur la façon dont Ursula von der Leyen, en 5 ans, a engrangé désormais une légitimité politique qui fait que la candidate qui se présente aujourd'hui, évidemment, n'a rien à voir avec l'ancienne ministre de la Défense allemande. Pareil, pour reprendre vos mots, Marion Gaillard, sortie du chapeau par le président français il y a 5 ans.
Oui, c'est une toute autre nature qui va se faire cette fois-ci, parce qu'elle a été investie, vous le mettiez tout à l'heure dans votre reportage, au congrès du PPE qui s'est tenu à Bucarest au début du mois de mars, comme chef de file du PPE et de la candidate du parti qui est membre en Allemagne du PPE, la CDU, donc ce qu'elle n'avait pas eu la dernière fois. Donc ça change la donne. Cette fois-ci, elle ne part pas, elle n'arrive pas par la fenêtre, elle arrive par la porte. Elle aimerait bien cette fois-ci avoir le soutien de toute sa famille politique, mais ce qui n'est pas gagné non plus, puisqu'on l'a vu à Bucarest, il y a notamment les Français des Républicains qui sont opposés à sa réélection. Mais comme l'a dit aussi Marion Gaillard, elle va essayer d'ouvrir un petit peu le champ, puisqu'en effet, pour de toutes les façons être élue, il faudra qu'elle ait la moitié plus un des 720 députés qui vont être élus en 2024. Et donc, il faut qu'elle aille au-delà du score du PPE, qui risque d'en effet être le parti qui va encore avoir le plus de députés, vraisemblablement après le scrutin du 9 juin. Donc cette fois-ci, elle arrive avec l'investiture de ce parti, qui est présidé par son, j'allais dire, ancien rival Manfred Weber. Donc celui-ci lui a passé la main, il ne sera pas candidat lui cette fois-ci. Mais en effet, elle doit aller chercher les voix d'autres partis à gauche, les sociaux-démocrates, et peut-être en effet chez certains conservateurs. Vous allez parler du PiS polonais. On voit bien que avec Giorgia Meloni, le courant est plutôt bien passé, et que Giorgia Meloni, qui est dans une phase de normalisation et d'européanisation, aimerait bien en effet jouer un rôle dans la désignation de von der Leyen, espérant elle-même pouvoir tirer les marrons du feu avec une nomination de quelqu'un de sa famille politique dans la future commission ou dans les futurs postes clés qui seront avec celui de la présidence de la commission en délibéré après les résultats des élections européennes du 9 juin.
Marc Sémo.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de sa part un jeu d'équilibre très difficile, parce que on lui reproche d'être trop vert, trop social. Donc là, s'allier avec Mélanie peut compenser, mais alors là, dans ce cas-là, de nouveau, elle retombe à droite. Et on voit aussi à quel point elle est isolée. Sa nomination au Congrès à Bucarest a été extrêmement courte. Et aujourd'hui encore, on voit au Parlement européen que sa nomination de Markus Pieper une majorité du Parlement européen lui a demandé d'annuler cette nomination. Donc c'est quand même quelqu'un qui est évidemment fragilisé.
Alors peut-être sur les deux points, la question des affaires, peut-être qu'on peut traiter après, mais sur la question politique qui est très importante, effectivement, qu'est-ce que son camp lui reproche finalement, Marion Gaillard ?
Alors effectivement, elle a réussi à être élue en portant un programme qui était un programme, comme vous le disiez, géopolitique, et ça, elle a été servie effectivement par les différentes crises, et elle a très bien réussi ça, mais aussi sur un programme vert et un programme social, et dans les premières mesures qu'elle a annoncées, il y avait le pacte vert. Et donc ce pacte vert lui a permis aussi d'obtenir souvent le soutien des écologistes, même si beaucoup trouvent que ça ne va pas assez loin. Et c'est le problème quand on est au centre. On est trop loin pour certains, pas assez pour d'autres. Son camp lui reproche ça, c'est-à-dire ce que vous disiez, elle est trop verte, trop sociale. Maintenant, on est depuis quelques mois dans des reculs sur tous les fronts. Elle flirte très clairement avec la droite et la droite extrême de ECR, en renonçant à une partie du verdissement de la politique agricole commune il y a quelques semaines, où la Commission a proposé vraiment de revoir la PAC en tenant compte de la colère des agriculteurs qui s'est exprimée dans plusieurs pays européens, mais aussi des problématiques d'importation de céréales en provenance de l'Ukraine ou de d'autres produits agricoles comme les volailles ou les œufs, et puis de l'inflation par exemple. Donc il y a des reculs très très importants sur la PAC qui rendent furieux les écologistes, notamment sur la fin de l'obligation des jachères, donc des problématiques autour du renouvellement des sols par exemple, mais aussi la fin des aides, ça c'est très important, on l'a peu dit, la fin des aides pour les petites exploitations, la fin des contrôles et des normes obligatoires pour les petites exploitations de moins de 10 hectares. Or, ils reçoivent 65% des aides. Ça veut dire que... c'est 65% des exploitations. Donc, ça veut dire qu'on va stopper les contrôles sur le verdissement de la PAC pour 65% des exploitations. Donc, c'est un recul très grave. Le recul aussi sur, justement, le flirt avec Mélanie, elle a dit, là, nous voulons l'état de droit. Donc, ça s'adresse évidemment à Viktor Orban, par exemple. Mais Giorgia Meloni, elle est en train de grignoter progressivement l'état de droit en Italie. On ne le voit pas trop parce qu'elle est très atlantiste, très pro-Ukraine. Et donc, on trouve que effectivement, comme le disait Pascal Johannin, elle est dans une phase de normalisation. Mais en réalité, elle grignote l'état de droit. Les populations LGBT sont stigmatisées de plus en plus. La RAI, la télévision publique, est mise sous tutelle. Enfin, on assiste quand même à des mesures qui sont hautement discutables. Et donc, ce flirt Mélanie von der Leyen, il est extrêmement problématique, de mon point de vue, sur justement l'identité de l'Union européenne comme une union d'État de droit.
Pascal Johannin, à ce tableau, il faut rajouter aussi les sondages dans toute l'Union européenne qui montrent que les extrêmes droites sont en embuscade et pourraient très bien faire des scores importants au Parlement européen en juin. Je renvoie d'ailleurs vers la série de Culture Monde sur les extrêmes droites en embuscade à ce sujet pour avoir plus de détails. Mais comment est-ce que cela crée une pression sur Ursula von der Leyen, et qu'est-ce que ça augure, imaginons qu'elle soit nommée à nouveau pour un second mandat, qu'est-ce que cela augure de nouvelles priorités qui seront données à l'Union et de un virage à droite, tout simplement?
Alors, il y a plusieurs points que je voudrais évoquer, parce que votre question est très large. Alors, d'abord, il y a une poussée à droite. Et il faut faire attention au mot extrême droite, parce qu'il y a deux groupes au Parlement européen sortant. Il y a le groupe de Giorgia Meloni, du PiS polonais, des démocrates suédois, etc., qui sont dans le groupe ECR. Et j'allais dire, ces gens sont plutôt pro-Ukraine, ils sont pro-atlantistes, c'est une droite radicale, mais ça n'est pas une droite radicale extrême, nationaliste, poussée à l'extrême. Et à côté de ça, il y a le groupe ID, où il y a en effet la Lega de Matteo Salvini en Italie, et c'était, dans le Parlement sortant, la plus grosse délégation de ce groupe. Hein. Après, il y a le Rassemblement National, il y a l'AFD allemande, et eux, ils sont plutôt pro-russe, pro-Poutine, beaucoup moins européens. Et donc, ces deux droites qui sont, on va dire, fortes, ne s'entendent pas. Et Giorgia Meloni et Marine Le Pen ne sont pas des copines. Marine Le Pen l'a dit elle-même. Donc, il y a une poussée, mais cette poussée va être limitée parce qu'ils vont refaire deux groupes. Il n'y a pas une famille politique unie parce qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord, notamment sur la question Ukraine-Russie. Et puis il y a d'autres questions sur lesquelles ils sont moins d'accord. Geert Wilders, par exemple, était pour le Nexit, il a gagné les élections, il est incapable, il a renoncé d'ailleurs au poste de Premier ministre, et il a renoncé aussi pour pouvoir faire une coalition dans laquelle il pourrait s'insérer à la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Donc en effet, il a fait sa campagne là-dessus, puis in fine, quand on veut rentrer au gouvernement, on met beaucoup d'eau dans son vin pour ne pas effrayer ceux avec lesquels on veut faire une coalition. Et donc 3-4 mois après les élections aux Pays-Bas, il n'y a toujours pas de gouvernement. Deuxième chose, Madame von der Leyen, elle est, comme toujours, dans un scrutin proportionnel, parce qu'on oublie que c'est un scrutin proportionnel, il n'y a pas de gagnant qui a la majorité absolue. Si le PPE arrive en tête, ce qui était le cas la dernière fois, et ce qui est probablement, selon les sondages, le cas cette fois-ci, il va falloir qu'elle fasse une alliance. La dernière fois, elle avait fait une alliance avec les sociaux-démocrates et avec ce qu'on appelle les libéraux de Renew. Et le pacte vert, il était porté non par Mme von der Leyen, mais par le premier vice-président de la Commission européenne, qui était le socialiste Timmermans, qui a quitté la Commission il y a 3 mois pour pouvoir être candidat de la gauche aux élections européennes, aux élections néerlandaises, et qui n'a pas gagné. Il est arrivé seulement deuxième. Et aujourd'hui, cette politique, en effet, on la reproche à Mme von der Leyen, mais on devrait la reprocher surtout à Frank Timmermans, qui était celui qui avait le portefeuille du pacte vert, qui était le premier poste, en effet, de la Commission, parce qu'il y avait eu un accord entre la droite, la gauche et les libéraux pour faire ce pacte vert. Sur la commission géopolitique, elle a utilisé en effet la guerre en Ukraine et elle a été servie par les choses, mais c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, je puis dire, parce que la commission n'a pas un rôle géopolitique. Et quand elle avait dit ça, son prédécesseur Jean-Claude Juncker, qui était un madré connaisseur des rouages de Bruxelles, puisqu'il avait été pendant 18 ans Premier ministre du Luxembourg et qui connaissait tout par cœur, avait dit, mais c'est pas dans les attributions de la commission. Si en effet on veut que l'Europe existe, il faut se mettre dans la peau de contribuer avec les États, leur faire comprendre que c'est leur intérêt. Mais si on rentre dans le, un peu comme elle l'a fait sur Israël, on en a parlé tout à l'heure, ou sur certaines autres choses, les États vont être réticents. Or, on sait que, bien entendu, il faut qu'elle ait le soutien du Parlement européen, mais il va falloir que les chefs d'État et de gouvernement soient d'accord pour la désigner. Donc, il faut qu'elle fasse amende honorable pour pas leur piquer leur job, puisque sur la politique étrangère, c'est quand même eux qui font l'appui et le beau temps. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec la guerre en Ukraine, mais l'Union européenne, finalement, elle met à contribution les États, et c'est les États qui donnent des armes, c'est pas l'Union européenne. Donc après, elle donne, dans le budget européen, elle rétribue aux États. Mais voilà, donc sur ces deux questions, il faut faire très attention. C'est la commission géopolitique, elle a incarné l'Europe plus que Charles Michel, qui est le président du Conseil européen. Or, Charles Michel va partir, puisqu'il a fait son mandat aussi. Et donc, tout ça va être mis à l'équilibre entre qui on va désigner à la commission, puisque c'est le premier poste qui va être affecté. Et après, on va regarder les équilibres politiques, l'issue des élections, quelle est la majorité qui existe pour avoir, en effet, cette majorité des 720 députés. Et on va regarder, en effet, à qui on donne la présidence du Conseil européen, le poste de haut représentant, des postes de vice-président, comme elle l'avait fait. Madame von der Leyen en avait mis trois. Elle avait mis, en effet, les trois partis qui étaient en dette.
Ouais. Pardon Pascal Joanna, comme vous devancez certains sujets, je me permets de vous couper parce que on voulait réagir en plateau. Marc Sémo.
Oui, justement, sur cette question, notamment de la présence géopolitique, est-ce qu'il n'y a pas aussi la personnalité même d'Ursula von der Leyen, c'est-à-dire le fait qu'elle personnalisait à l'extrême ses fonctions, le fait que nombre des commissaires le reprochent son absence de collégialité et que c'est un problème qui se surajoute au fait que ses rapports avec Charles Michel étaient exécrables, le président du Conseil européen, et avec Josep Borrell, qui l'un comme l'autre lui reprochait globalement d'outrepasser ses fonctions et de faire leur job. Ce qui lui était d'autant plus facile que l'un comme l'autre n'était pas très charismatique. Donc est-ce qu'il n'y a pas cette dimension personnelle qui joue aussi énormément dans les réticences qu'il peut y avoir à sa reconduction ?
Marion Gaillard ?
Alors, je voudrais juste nuancer quand même un tout petit peu, parce que on a été à certains égards assez critiques sur Ursula von der Leyen, mais en même temps, sa dispute avec Charles Michel n'est pas forcément due que à elle, hein, mais beaucoup aussi à Charles Michel lui-même. Et par ailleurs, c'est souvent facile de dire on outrepasse ses fonctions. Je suis pas sûre qu'on l'aurait dit pour un homme. Donc il y a sans doute une bonne part de machisme dans tout ça aussi. C'est la première femme présidente de la Commission européenne.
On rappellera Istanbul, la visite à Istanbul.
Voilà, à Istanbul, exactement.
Donc, alors rappelons pour les auditeurs ce qu'on a appelé le Sofagate,
c'est-à-dire que lorsqu'ils avaient été reçus, Charles Michel et elle, par le président turc Erdogan, il n'y avait qu'une place pour le représentant de l'Union européenne. Charles Michel a pris cette place et Ursula von der Leyen est restée sans place. Donc ça avait fait
une image terrible
à l'époque et c'était une image assez dure. Donc oui, elle a incarné la fonction. Ça c'est évident. Plus que Jean-Claude Juncker même, elle a personnifié la fonction. Est-ce que vraiment on doit le lui reprocher pour le coup ? On a toujours dit que l'Union européenne était invisible, qu'elle n'était pas incarnée, qu'on savait pas qui c'était l'Union européenne. Bah aujourd'hui on sait qui c'est Ursula von der Leyen. Ça fait sans doute mal à Charles Michel, aux chefs d'État et de gouvernement et à tous les machistes autour de la table du Conseil européen. Mais c'est un fait, elle a réussi ça. Et elle l'a porté avant même la guerre en Ukraine, avant même le Covid, dès 2019. Puisqu'elle a été élue avant les crises importantes et elle a affirmé dès le départ cette idée d'une commission géopolitique parce qu'elle a sans doute senti, peut-être aussi parce qu'elle était ministre de la Défense au préalable, qu'on changeait de monde. Je vous rappelle qu'en 2019, on était encore dans la première et j'espère peut-être la dernière présidence Trump aux États-Unis et que donc on avait bien compris que l'Union européenne devait s'affirmer sur la scène internationale et compter beaucoup moins sur l'allié américain. Et puis on avait cette montée en puissance de la Chine, notamment avec une augmentation importante du budget militaire chinois et des opérations en mer de Chine récurrente. Donc elle s'était déjà saisie de ça, sans doute en rebondissant aussi sur le discours de Macron à la Sorbonne en 2017 et cette idée de souveraineté européenne portée par la France. Donc elle a saisi avant l'heure, j'allais dire, en tout cas avant la guerre en Ukraine, ce moment géopolitique. Peut-être ça peut lui être reproché, peut-être outrepasse-t-elle ses fonctions. En tout cas, elle contribue pour pour cela, pardon, parce que je retiens de l'atout, à affirmer le poids de la Commission européenne. Et ça, c'est bien, parce que la Commission européenne, c'est supranational, et que le Conseil européen fonctionne largement de manière intergouvernementale, et souvent entravé par les querelles entre États. Et donc, quand on a un leadership fort à la Commission, on arrive souvent à entraîner davantage les États. C'est une articulation, je rejoins Pascal Johannin, hein, c'est une articulation entre le supranational de la Commission, l'intergouvernemental du Conseil européen, et il faut que ça fonctionne bien et que on arrive ensemble à faire avancer les choses. Ça avait été le cas sous la présidence Delors, avec notamment Mitterrand et Kohl. Ça a été globalement le cas, finalement, cas un cas, pendant ces dernières 5 années.
Alors, on entend, Marion Gaillard, que Ursula von der Leyen a créé la rupture, d'une certaine manière, par cette incarnation et par ce pied qu'elle a mis sur les questions géopolitiques. Il y a quand même une question qui se pose, et on touche peut-être là à un des paradoxes du fonctionnement de l'Union européenne et de son exécutif, c'est que c'est celle de la légitimité démocratique, puisque en particulier sur la question sur la scène internationale, aujourd'hui il lui est reproché des décisions comme par exemple d'avoir signé un accord sur les migrations avec la Tunisie sans concertation avec les chefs d'État, d'avoir une attitude avec les États-Unis qu'on dit complaisante, qui ne prendrait pas assez en compte par exemple les effets de l'Inflation Reduction Act sur les industries européennes. Voilà, je cite quelques-uns des dossiers qui sont aujourd'hui mis sur la table par certains États membres pour lui reprocher son implication sur scène internationale. Pascal Johannin, comment est-ce que vous regardez cette tension-là entre les chefs d'État et la chef de l'exécutif européen? Est-ce qu'il y a une clarification qui est en train d'être faite? Et sur cette question de la légitimité démocratique, est-ce qu'il est légitime à vos yeux de lui reprocher de s'impliquer un peu personnellement sur certains dossiers sans concertation?
Mais comme l'a rappelé Marion Gaillard au début, elle est arrivée alors qu'elle n'était pas la candidate du parti, qu'elle est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, désignée par essentiellement Emmanuel Macron. Certains y ont vu, parce qu'elle est allemande, n'oublions pas, le plus grand pays ou le plus peuplé de l'Union, et que c'était la première présidente allemande depuis Walter Hallstein qui l'avait eu il y a très longtemps. Et donc, tout ça faisait un peu des signaux qui étaient attention, elle a été nommée par la petite porte, et puis elle est allemande, et donc, ça va être le triomphe des grands États. Il faut toujours se rappeler que c'est une union de 27, avec en effet des États qui sont importants, la France, l'Allemagne et l'Italie par exemple, et puis des États beaucoup plus petits. Mais l'intérêt, c'est qu'en effet, on marche ensemble. Et en matière géopolitique, on a bien vu dans la guerre en Ukraine, l'Union européenne, il n'y a pas eu une feuille à cigarette ni au départ, ni avec Viktor Orban, ni avec des partis qui étaient moins, on allait dire, pro-ukrainien à la base, et en effet, elle a réussi à mettre en place tout ça. Et donc, on lui reproche, et je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Marion Gaillard, peut-être que le fait d'être une femme, c'est la première présidente, et je ne vois pas en effet, là, on a parlé d'autres noms tout à l'heure, ça va être très difficile pour les chefs d'État et de gouvernement de la sanctionner parce qu'elle est une femme, parce qu'il n'y a pas d'autre candidate femme. Et donc, c'était la première fois, elle incarnait, et c'était donc un symbole, peut-être que, justement, parce qu'on manque de femmes, alors que c'est la population européenne est majoritairement féminine, on n'avait pas beaucoup de femmes dans les postes à responsabilité, là, elle l'incarne, elle l'incarnait peut-être en effet parce qu'elle est une femme, elle a plus pris la lumière que les hommes qui l'ont précédée. Et puis, il y a un dernier point qui est important, c'est que on lui a ce procès en légitimité, c'est parce que tous ces brésisteurs, jusqu'à Jacques Delors, ça avait été des anciens chefs de gouvernement, Juncker, Barroso, Prodi, voire Santer. Et elle ne l'était pas comme Jean-Claude Juncker, et comme Jacques Delors. Et finalement, peut-être, si elle est reconduite, elle laissera peut-être une trace, comme Jacques Delors l'a fait donc il y a longtemps, hein, c'était 85-95 hein, pour nos auditeurs, Jacques Delors, peut-être en effet qu'elle laissera une trace parce que c'est une nouvelle ère, comme il y a eu la nouvelle ère après la chute du mur et la réunification de l'Europe, peut-être en effet là, une Europe qui doit en effet s'affirmer par rapport aux États-Unis, parce que en effet, même si on a beaucoup de valeurs avec les États-Unis, on n'a pas forcément un président qui est un allié, qui est un ami, il peut être un allié mais pas un ami, on a un ennemi de façon maintenant sûre, c'est Poutine. Poutine, il fait la guerre à l'Ukraine, mais s'il pouvait faire la guerre à l'Occident, à l'Europe, qu'il n'a jamais aimé, il le ferait volontiers. Alors, on est dans l'OTAN, donc il ne joue pas à ce jeu-là. Et puis, il y a la Chine qui va être le numéro un mondial, rappelons-le, en 2049, qui a aujourd'hui quelques difficultés, mais qui ne nous fera pas de cadeaux. Alors, il faut faire attention à ce qu'on veut faire. Et si, en effet, on veut peser encore dans les affaires du monde, demain, en 2030, en 2035, c'est seulement nous et nous-mêmes qui devons définir notre avenir, c'est pas les autres. Donc, on a intérêt à se renforcer. Et elle l'a compris. Je crois que les chefs d'État et de gouvernement l'aideront jusqu'à ce qu'en effet, elle comprenne qu'elle aussi, il faut qu'elle travaille sur ces questions politiques avec le Conseil, avec lui et pas contre lui.
Marion Gaillard.
Oui, il faut aussi effectivement qu'elle revoie sans doute son mode de gouvernance à l'intérieur de la Commission européenne. Hein, comme ça a été rappelé, on la critique beaucoup pour une forme de verticalité. Donc peut-être qu'il faudra qu'elle apprenne un peu plus la collégialité aussi si elle fait effectivement un deuxième mandat. Je voudrais juste rebondir sur la différence entre les deux droites extrêmes ou extrême droite. C'est vrai qu'il y a deux groupes, c'est vrai qu'ils ne s'entendent pas et notamment sur la question de la relation à la Russie. Mais il y a quand même des points de convergence. Donc ils ne peuvent pas créer une contre-majorité, c'est pas la question. C'est juste le poids qu'ils font peser dans les débats. C'est vrai qu'il y a des points de convergence entre eux malgré tout, notamment sur les questions de l'état de droit. Parce que on dit ECR, donc les conservateurs réformistes, c'est pas l'extrême droite. Moi, je les appelle la droite extrême. J'évite de dire extrême droite. Mais c'est quand même le pitch polonais fait partie de ECR et a remis en cause très clairement l'état de droit pendant des années en Pologne. Donc, on peut le classer quand même à la droite extrême. Donc, je voulais juste revenir là-dessus. Et c'est pour ça que la problématique de l'alliance éventuelle entre von der Leyen et Mélanie, ça veut dire qu'elle va vers un groupe dont elle a critiqué les dérives pour ce qui est du pitch en Pologne, dont elle ne critique pas pour l'instant les dérives en Italie. Elle emmène un peu partout avec elle Giorgia Meloni, alors que, quand même, ce qui se passe en Italie, encore une fois, est critiquable. Par ailleurs, sur les accords migratoires, ils sont critiquables, de mon point de vue, sur le fond, et toute la recherche scientifique explique que cette politique d'externalisation n'a pas de sens, qu'elle ne fonctionne pas. Et ils sont critiquables sur le plan des droits humains. Mais, par contre, c'est quand même un peu l'hôpital qui se moque de la charité quand des chefs d'État et de gouvernement qui n'ont qu'une obsession, c'est de fermer davantage l'Europe, lui reprochent d'aller signer un accord avec l'Égypte. Donc, cet accord, moi, je le critique sur le fond. Avec l'Égypte, elle est allée voilà. Je lui reproche sur le fond. En revanche, les chefs d'État sont mal placés pour le lui reprocher, étant donné que c'est exactement ce qu'ils souhaitent faire. Hein, et on rappelle que le pacte a été adopté avant-hier et qu'il ferme l'Europe à la migration.
Vous écoutez Culture Monde, Marion Gaillard et Pascal Joinin sont nos invités pour parler du bilan de Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne et des enjeux d'un éventuel second mandat. Et comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier, c'est la bulle Cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine nous vient du Luxembourg. Il est signé Florin Balaban. C'est un portrait de Ursula von der Leyen, représentée ici en chevalière de la nation européenne, juchée non pas sur un cheval, mais un taureau, référence, on imagine, au mythe grec de la naissance de l'Europe. L'animal est drapé d'une longue cape aux couleurs du drapeau européen sur lequel apparaît aussi un sigle de l'OTAN. Ursula von der Leyen se présente arme à la main, un bouclier d'un côté qui évoque le drapeau ukrainien, une lance de l'autre surmontée d'une éolienne, soutien à Kiev et transition énergétique, deux des combats de la présidente sortante, et c'est en tout cas ce qu'en retient notre caricaturiste. Et notons aussi une certaine ressemblance avec Don Quichotte dans ce portrait. Reste à savoir si la référence au célèbre chevalier errant qui prenait des moulins pour des géants est flatteuse ou pas. Réaction de nos invités à cette caricature, à ce dessin de presse. Marion Gaillard.
Bah, il est très bon, il reflète effectivement bien la situation. C'est le propre des caricatures quand elles sont bien réalisées, c'est qu'en un dessin, en un coup d'œil, on a tout. On a le pacte vert et l'Ukraine, effectivement, le lien à l'OTAN et la problématique du lien avec des États-Unis qui pourraient être à nouveau dirigés par Donald Trump. Vous évoquiez Don Quichotte, ça me semble très bien, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y a un côté parfois très vain ou aléatoire et on ne sait pas trop ce que ça va donner. On peut faire aussi le lien parce que pour l'éolienne, bah, il faut des matériaux critiques et on les a pas. Donc la transition verte, elle va avec la géopolitique parce qu'il faut que on fasse attention à nos approvisionnements. Et donc c'était l'objet notamment du texte qu'a proposé Thierry Breton l'année dernière sur les matériaux critiques. Donc vous voyez, on peut faire le lien aussi en fait entre géopolitique et transition verte et dans ce cas-là, effectivement plus que la Russie, surtout la Chine hein, qui détient la plupart de ces matériaux. Donc je trouve que c'est très bien vu et puis bah on verra où ça l'amène. Il a mis le taureau, il a pas mis qui est en face. On imagine qu'il y a Xi Jinping, on imagine qu'il y a Poutine notamment, mais voilà, ça nous laisse imaginer quels sont les ennemis possibles.
Pascal Joannin, alors dessin qu'on peut retrouver sur le fil du compte Twitter de l'émission et sur la page de Culture Monde. Pascal Joannin, je vous laisse réagir également. Et puis peut-être justement pour aller un peu plus loin et évoquer la question de l'ennemi invisible, en tout cas invisible sur ce dessin, et se poser la question de quelles seront les priorités de Ursula von der Leyen si elle devient, pour un deuxième mandat, présidente de la Commission européenne cet été.
Moi, je vois plus une allégorie féminine à ce dessin. D'abord parce que le taureau royal pâle, il faut toujours se souvenir que c'est une femme à l'origine. Hein. Europe, c'est une femme, c'est un continent qui est plutôt féminin, où la part des femmes est toujours la plus importante. Quand on regarde ailleurs dans le monde, c'est moins le cas, que c'est la première présidente. Et moi, plutôt que Don Rirote, j'aurais préféré qu'on fasse une corrélation avec Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui se bat, qui... on pense que les femmes sont faibles, que les femmes sont naïves. Eh bien, je pense qu'avec von der Leyen, on montre que le sexe dit faible est finalement assez fort et que la naïveté, l'Europe en sort. Il faut qu'elle en sorte. Et donc, justement, les priorités de Madame von der Leyen, c'est de réaffirmer la fin d'un certain nombre de choses qui ont été trop longtemps le cas en Europe, où on a fait un peu confiance aveuglément. Il faut qu'on défende ce que nous sommes, comme disent les Luxembourgeois, puisque c'est la devise du Luxembourg, qui est un des plus petits États de l'Union européenne, mais pas le moins important, puisqu'il s'appelle Grand-Duché. Mais surtout, il faut en effet affirmer ces combats pour les valeurs, l'État de droit, un certain nombre de choses, l'égalité homme-femme, etc. Et puis la place dans le monde de l'Europe face à des pays qui sont beaucoup plus grands, qui sont tous détenus par des hommes et qui ne veulent pas nous faire de cadeaux. Donc, que ça soit la Chine, c'est pas la guerre avec la Chine, mais il faut plus de réciprocité dans les échanges avec la Chine. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu la tendance de l'Union. Avec la Russie, il faut être ferme et extrêmement ferme. Et avec les États-Unis, bon, on verra ce que les Américains décideront au mois de novembre. Mais de toutes les façons, même si c'était un allié, ça n'est pas forcément un ami. Il va falloir en effet. Et puis il y a tout ce qu'on appelle le Sud global, qui n'est pas une entité qui est unie, mais qui remet un peu en cause ce que l'Occident est. Et donc dans l'Occident, il y a les États-Unis, il y a nous, et puis le Canada et deux, trois autres pays, le Japon, etc. Et donc, c'est ces valeurs-là qui sont mises en cause par un certain nombre de pays qui ne votent pas aux Nations Unies comme nous, qui aimeraient qu'on remette le système international un peu en leur faveur. Et donc, c'est ça que l'Europe doit incarner. Et donc, Madame von der Leyen, c'est une de ses priorités, faire en sorte qu'en effet, on sorte de nationalité et que l'Europe soit plus forte demain sur la scène internationale.
Il nous reste quelques secondes. Marion Gaillard a le mot de la fin.
Oui, je voulais juste dire, oui, elle veut défendre des valeurs et ça me semble très bien pour les défendre. Il faudrait surtout ne pas pactiser avec ceux qui la foulent, qui les foulent.
Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Marion Gaillard, je rappellerai pour vous l'Union européenne, institutions et politique parue à la Documentation française. Pascal Joannin, je renvoie vers le site de la Fondation Robert Schuman. Merci beaucoup Marc Semo. On se retrouve pas la semaine prochaine, ce sera Julie Gacon au micro vendredi prochain. Et Julie, que vous retrouverez aussi lundi pour une nouvelle série qui sera entièrement consacrée à l'Inde. 10 ans tout juste après son arrivée au pouvoir, Narendra Modi brigue un troisième mandat. Nous ferons le bilan de la décennie Modi, comment son parti, le BJP, est devenu hégémonique, les déçus de la croissance indienne, l'agriculture qui emploie la moitié des Indiens, mais dont le modèle craque de toutes parts, et enfin les ambitions de New Delhi dans l'océan Indien. Et dans un instant, les midis de culture.